Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site hommenouveau.fr.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Nous avons un plateau d'élite et que je suis très heureux de vous présenter ou de vous représenter. Donc à nouveau l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être encore parmi nous. L'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes.
Prophète et auto...
Auto-référencé.
Merci Jean-Pierre. Bah voilà, il s'est quasiment présenté lui-même, Jean-Pierre Maugendre, le laïc de l'étape.
Bonjour à tous.
Et puis nous avons gardé pour la fine bouche, si je puis dire, le père Danziek. Ouais. Merci mon père également.
Bonjour Philippe et bonjour à tous.
De votre présence.
Merci.
Alors on m'a demandé, j'allais dire en régime, n'exagérons pas quand même, enfin on m'a demandé de surtout de citer ceux qui suivaient cette émission, qui venaient de s'abonner sur la chaîne YouTube de L'Homme Nouveau pour les accueillir. Bah, je suis très heureux effectivement de saluer Christophe, Pierre, Rémi, Geneviève, Micheline. Et oui, il y a quelques femmes quand même hein, qui vous suivent, messieurs, qui vous écoutent avec attention et voire qui vous jugent parfois. Et oui. Bienvenue également à Mort, Claude, Coralie, Nathan, Igor, Vincent et évidemment tous les autres. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à faire comme eux en vous abonnant à notre chaîne. La semaine dernière, nous parlions de liturgie après avoir évoqué l'inscription de l'avortement, du droit à l'avortement dans la Constitution. Cette semaine, j'aimerais qu'on aborde un document qui a circulé à Rome, peut-être au-delà, signé de Demos II, donc très clairement un pseudonyme. Ça veut dire qu'il y a eu un Demos 1, mais monsieur l'abbé Barthes, je me tournerai vers vous dans un instant pour vous nous rappeliez tout ça.
Demos 1.
Donc, Demos 2 a signé un texte où il dresse en somme le portrait robot du futur pape. Ça veut dire que les grandes manœuvres de succession sont commencées, donc.
Continue.
Vous me direz ça dans un instant, et puis les autres pourront également parler, évidemment. En tout cas, le prochain conclave franchit une nouvelle étape et se prépare. Alors, ce texte de Demos 2, monsieur l'abbé, de quoi s'agit-il exactement? Je me tourne vers vous, parce que vous êtes ce qu'on appelle un vaticaniste. Oh là là, quelle modestie! Vous êtes un non-être, alors.
Oui, Demos, il faut expliquer ce qu'était un Demos, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a combien de temps maintenant? Un an et demi, deux ans, un texte a circulé, critiquant pas mal le pontificat actuel et posant des jalons pour le futur pontificat, qui était signé par un cardinal qui ne disait pas son nom, mais dont on a su ensuite qui il était, à savoir le cardinal Pell, australien
qui avait été emprisonné d'ailleurs.
Emprisonné, qui a joué un rôle important à Rome dans la Rome du pape François, du point de vue de la mise en ordre économique. Et donc il avait signé Demos, le peuple, et il était publié par un vaticaniste, en vrai, cette fois, Sandro Magister.
C'est certain que c'était le cardinal Pell.
C'est certain.
Et puis il est mort maintenant, on peut le dire tranquillement.
Non.
Il n'a pas voulu. Bon, et d'ailleurs, c'était
il est mort de mort naturelle.
Naturelle, oui, mal soigné quand même. Hein.
Mal soigné. Mais pas sûr.
Non.
C'est simplement fâcheuse opération.
Il a choisi ce d'hôpital, pauvre homme. Et que voulais-je dire? Oui, donc. Ce texte était vraiment caractéristique du cardinal Pell quand on le connaissait un petit peu. Il parlait pas mal de. C'était un peu brouillon, bon, c'était lui. Il parlait de choses économiques qui apparaissaient comme très importantes. Il dénonçait donc la mauvaise gestion économique de la curie actuelle. Parfait. Alors maintenant, donc, le cardinal Pell est mort. La préparation du conclave pour continuer, c'est comme l'affaire des temps.
Mais c'est normal ça qu'on prépare comme ça
Sous tous les pontificats, ça se fait. On parlait dans la dernière émission, la semaine dernière, d'un texte de 2004 qui était juste avant le conclave de 2005. Un texte sur un moment où vraiment Rome, on ne parlait que de ça. que de ce qu'elle est à devenir.
Ah, bon, après, faut... après
donc, la succession de Jean-Paul II
est très malade et on a... bon, François est moins malade apparemment en tout cas que Jean-Paul II, même s'il n'est pas bien, et on parle aussi beaucoup, et notamment à Rome et dans un donc de tous les côtés, gauche-droite. Hein,
vous faisiez une grimace, ça veut dire un climat qui n'est pas sain, c'est ce que vous voulez dire
qu'est-ce qui n'est pas sain? Non, oui, non, c'est pas sain, bien sûr. C'est pas sain, mais c'est le gouvernement actuel qui n'est pas sain. Hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Enfin, je veux dire, la manière dont fonctionnent les institutions. On n'aurait pas fait ça sous Pie XII, c'est clair. On ne fera pas ça sous Pie XIII. Et donc,
mais sous Pie XII, la succession s'est préparée aussi.
C'est préparé, se prépare toujours.
C'est plutôt habituel.
Avec des critiques fortes.
D'une certaine manière, oui. Tandis que là, c'est, disons, tout le monde en parle. C'est vrai que, par exemple, Dubélé, le poète du XVIe siècle, quand il vient faire un voyage à Rome avec son oncle, le cardinal Dubélé, fait un sonnet sur ce qui se passe. Je vois les cardinaux qui surveillent la maladie du pape et qui regardent ses crachats pour savoir s'il n'y a pas un peu de sang. Hein. Mais ça restait concentré dans le...
Oui, là, aujourd'hui, ça se diffuse, de la communication, voilà,
c'est transparent. Et donc, on va dire, à gauche, on sait bien ce qui se passe, mais pas de la même manière. À droite, il y a de l'agitation et on veut influer manifestement sur le collège des cardinaux qui est devenu, je ne dis pas d'extoplasme, mais enfin on ne sait pas trop, ils sont tellement nombreux, 130 cardinaux votants, hein, ce qui est colossal.
C'est énorme.
Moins que ça, je...
De toute façon, c'est limité à 120 normalement.
Oui, mais ça peu importe, le pape fait ce qu'il veut, hein, sauf nommer son successeur, pour l'instant en tout cas. Et... Oui, bon, donc ils sont nombreux.
On a parlé pendant un moment de cette option. Hein. Je ne sais pas si c'était une blague là aussi.
Mais... On ne les connaît pas et on ne sait pas ce qu'ils pensent exactement. Je rappelle que le pape est élu aux deux tiers des voix, ce qui fait quand même quelque chose comme 46 et 46. Enfin bref, plus de 80. Hein. Or, plus de, je crois que c'est 91 électeurs.
Plus de 90.
90 électeurs actuels ont été nommés par le pape. Alors, on peut penser qu'ils sont dans la ligne du pape, tout le monde le pense plus ou moins, sans être absolument certain. Bon. Notamment parce que, alors ça aussi, ça fait partie du contexte, le texte Fiducia Supplicans sur la possibilité de bénédiction des couples irréguliers et des couples homosexuels a quand même pas mal rebattu les cartes, y compris chez ces cardinaux nouveaux. Donc, on sait encore moins ce qui
va se passer. Grand flou sur la
tentation est d'influer sur ces choses-là. D'où cette idée qu'ont eu certains de d'inventer en quelque sorte un nouveau cardinal Demos. Okay, donc c'est la Nuova Bussola Quotidiana, qui est une revue italienne qui est très lue, on va dire, qui est dirigée par Caccioli, Riccardo Caccioli, qui est un ratzingerien bontain, italien, qui est issu de Communion et Libération, hein, et qui a lancé cette affaire-là, un Demos II. Donc
il a publié Demos II.
Il a publié Demos II, oui, qui est attribué à un cardinal. Je suis persuadé que ce n'est pas vrai. Le cardinal l'a eu entre les mains, hein, mais ce n'est pas un cardinal qui l'a rédigé. On ne reconnaît aucun style de cardinal. On peut imaginer que c'est tel ou tel à cause de telle ou telle chose, mais sans plus. Non, le texte vient, on peut le dire aussi, bon, sans livrer aucun secret d'ailleurs, parce que je parle de choses qui sont possibles, c'est tout, de George Weigel, si ça vous dit quelque chose, qui est un Américain, très Américain là pour le coup, qui est justement de ligne de ce catholicisme américain d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un Voigtilien, un homme qui se veut être d'influence.
Donc un Voigtilien, c'est un fidèle de
Jean-Paul II. Il a écrit beaucoup de livres.
Il a écrit sur Jean-Paul II.
Sur Jean-Paul II, c'est ça. Et un de ses derniers livres, à noter, hein, dans ce que nous sommes en train de dire, un Italien était le prochain pape. Il faisait déjà un portrait du prochain pape. Je disais déjà comme si c'était lui qui l'avait écrit. Je n'en suis pas absolument certain, mais enfin, ça s'est fait dans le milieu Weigel. Sur le prochain pape, et qui a été distribué, même tactique, à tous les cardinaux qui venaient pour le consistoire, le dernier grand consistoire. pour voilà, les influencer dans la ligne. Et c'est dans cette idée-là qu'a été fait ce texte. Est-ce que c'est une... ce sera efficace? J'en sais trop rien. Je ne sais pas si les cardinaux peuvent lire ce qu'on leur envoie. Encore faut-il... bon, ils reçoivent beaucoup de courriers. Il n'est pas possible d'avoir leur mail personnel, qui serait le meilleur moyen de les toucher. On le sait, le mail personnel d'un cardinal, que quand il vous écrit lui-même, ou qu'il s'abonne à votre site.
Et voilà, mais... donc reste nobé, n'oubliez pas le site de l'abbé Barthes.
C'était de manière de citer. Bon, donc, bref, enfin, peu importe.
Qui prépare aussi les grandes manœuvres.
Sur le fond, ce sont quand même des idées de Weigel, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'en conservatisme, il faut en revenir... il faut en revenir à l'herméneutique de continuité.
Il faut en revenir à Jean-Paul II et Benoît XVI.
Et Benoît XVI, c'est ça. C'est conservateur. Bon, bien. Et avec une insistance quand même nouvelle, semble-t-il, tant dans ce texte que dans ce qu'il disait dans son livre sur le prochain pacte, sur le dogme. C'est intéressant. Donc il insiste sur le fait qu'il faut s'appuyer sur le dogme est salvateur, etc. Ça, c'est très bien. Et très bien aussi le fait que ça ait paru. Par conséquent, on sait notamment de l'autre côté que ça s'agite à droite. Ils ne sont pas complètement amorphes.
Vous dites le dogme, donc c'est, si je résume, c'est retour aux fondamentaux. Enfin, c'est une demande que le prochain pape revienne aux fondamentaux.
Étant entendu que pour des gens comme Weigel, le dogme, c'est la morale. Hein. Ce sont des gens qui...
Ils sont bien voctiles.
Ils sont bien, c'est le dogme, c'est pas la liberté religieuse, c'est pas...
ça, c'est votre dogme à vous, ça.
C'est mon dogme, ouais, la liberté religieuse, je suis pas... non, je... Mais, oui, pour une... ils ont bien compris ce qu'était le pontificat de François, c'est-à-dire la démolition de cette barrière qui était restée antilibérale, tout de même, qui était celle de l'humanévité et du magistère moral, et qui a cimenté... ce qu'on appelait la restauration, qu'elle soit de Jean-Paul II ou de Benoît XVI.
Qui n'a rien restauré en...
Non, ça c'est notre affaire.
Abbé Cellier, votre réaction, on vous redonnera la parole, monsieur Abbé Barthes, mais votre réaction à Demos 2 sur...
Alors évidemment, il est un petit peu gênant de disserter sur ce que devrait être et faire
ça, je suis bien d'accord.
Le nouveau pape, le futur pape. C'est un peu Grosjean qui en remonte à son curé, donc j'avance avec, je dirais, avec, de façon très prudente. Donc ce texte de Demos 2 que j'ai eu sous les yeux, effectivement, donne un certain nombre de pistes, de réflexion, de retrouver, rétablir les vérités. Nouveau pape devra revenir à l'herméneutique de continuité. Un style de gouvernement, donc il critique un style de gouvernance autocratique. Ça, c'est très typique, effectivement, du pape actuel. Cela dit, il me semble qu'à travers ce texte, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous réfléchissons sur le pape qu'il faudrait vraiment à l'Église dans cette crise actuelle ? Le pape qui serait désirable en soi, ou bien est-ce que c'est le pape qu'il est peut-être possible humainement d'espérer ou de souhaiter dans les conditions actuelles, notamment avec le sacré collège tel qu'il est constitué. Donc c'est deux questions différentes, hein, parce que bon, avec le sacré collège qui a été essentiellement constitué par le pape François, mais l'histoire de l'Église nous apprend que un sacré collège constitué par un pape ne vote pas forcément et rarement d'ailleurs dans la même ligne que le pape. Là, par exemple, il est clair que le sacré collège, comme tout le monde, est exaspéré de ce côté autocratique et erratique du pape François et va aller dans une autre direction humaine, avec une personne différente. Et aussi que le roi n'est pas comptable du duc d'Orléans, je crois. Enfin, c'est une expression.
Vous regardez pas comme ça en disant le duc d'Orléans. Si
quand un Orléans devient le roi, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment c'est cette expression. C'est-à-dire que celui qui est élu, même s'il a été élu sur la base du progressisme, etc., face à la réalité, il peut avoir des réactions tout à fait inédites et donc voilà. Mais voilà. En revanche, je pourrais dire ce que devrait être le pape en soi aujourd'hui, enfin, si, pour résoudre la crise, mais je pense qu'on parle plutôt du pape tel qu'il pourra émerger.
Le pape en soi, c'est un nouveau Saint-Pie X, que vous voulez.
Bon, il faudrait un pape, pour moi, pour l'Église, hein, il faudrait un pape habité par la foi, si possible saint, mais habité par la foi, qui soit énergique et qui soit habile politique pour que cette énergie ne devienne pas brutalité. Et même, en fait, si on regarde l'histoire de l'Église, il faudrait une suite de tels papes. Parce que c'est ainsi que, qu'a pu advenir la réforme grégorienne, avec Grégoire VII, avec ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont suivi, et la réforme tridentine, hein, où il y a une succession de papes qui ont fait avancer les choses, parce que un seul pape sur un pontificat peut faire beaucoup évoluer les choses, mais il ne peut pas faire la réforme jusqu'au bout.
Moi, je vous propose qu'on publie un Démos 3.
Démos 3, oui, c'est que j'allais dire.
Ça sera court, ça prendra pas trop de place. Voilà. Et je suis prêt à publier ce Démos 3. Jean-Pierre Maugendre, peut-être une réaction vous.
Alors oui, les réflexions donc à la lecture de ce texte, j'ai trouvé, mais ça rejoint un peu la distinction que faisait monsieur l'abbé Cellier, on a en fait une approche très structurelle. C'est-à-dire, dans ce document, il dit qu'il faut que le pape soit moins autoritaire, il faut arrêter les ambiguïtés de la foi, il faut revenir à la théologie du corps, il faut respecter le droit canon, il faut arrêter de se promener partout, il faut écouter les cardinaux. Voilà. Tout ça, c'est très... Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est très structurel. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. La situation étant ce qu'elle est, est-ce qu'on peut aspirer à plus ? Et moi, ce qui m'a frappé... Pardon ?
Tu es conservateur.
Oui, mais ce qui m'a frappé, justement... c'est peut-être la faiblesse de ce dispositif, c'est qu'il n'y a rien sur la foi. Il n'y a rien sur la foi, son contenu, il n'y a aucun rappel sur...
C'est sous-entendu quand même que le pape est la foi. C'est quand même une évidence, non ?
Est-ce que la foi est mise en péril ? Comment elle est mise en péril ? Par quoi elle est mise en péril ? Donc, moi, ce qui m'a frappé autour de la foi, il n'y a rien sur son contenu. Alors, s'il y a un petit paragraphe sur des rappels, des points de doctrine qui sont tout à fait réels, sur son contenu, sur sa transmission... Aujourd'hui, un des problèmes de fond qui n'est pas du tout abordé, c'est la question du catéchisme, avec cette question qui reste pendante. S'il existe un catéchisme de l'Église catholique qui est plus un ouvrage de référence pour travailler, c'est pas avec le catéchisme de l'Église catholique qu'on apprend le catéchisme. Reste pendante la question de la transmission de la foi pour les enfants. C'est quelque chose qui m'avait frappé dans la lecture du livre de Jean-Marie Guénois sur le pape François. À un moment donné, il écrit « expressis verbis » envoyer ses enfants au catéchisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est s'assurer qu'ils perdent la foi. Et là, le brave Démos, là, il n'est pas question de ça. Donc il y a la question de la transmission de la foi, donc par le biais du catéchisme, par le biais des prêtres, de la formation des prêtres, des séminaires. Il n'en est pas question non plus. Et puis, je crois, c'est la question de fond. On demandait à Mgr Lefebvre, il y a quelques décennies, un journaliste, vous arrêtez pas de vous plaindre, très bien. Demain matin, vous êtes pape, qu'est-ce que vous faites ? Mgr Lefebvre répondait, je nomme de bons évêques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'immédiat dans la responsabilité du souverain pontife. Quoi. Et le brave Démos, là, il n'en parle pas. Et je trouve que c'est un peu contrariant. Il n'y a rien non plus sur la question de la liturgie. Mais ça rejoint ce qu'on vient d'évoquer. S'il n'y a rien sur la foi, les deux sont liés.
Donc, chance, ce n'est pas un cardinal qui l'a écrit.
Ça, je ne sais pas.
C'est la responsabilité.
Et puis, je crois qu'on aurait pu aussi faire... je pense au livre de Paul Vigneron. Avoir la volonté de renouer avec ce qui a fonctionné. Voilà, c'est les travaux de Cuchet, etc. Aujourd'hui, où se transmet la foi ? Qui transmet la foi ? Quelles sont les familles qui transmettent la foi ? Quelles sont les méthodes pédagogiques qui transmettent la foi ? Eh bien, moi... moi, pape.
Moi, Jean-Pierre Longin.
Non. Mais souverain pontife, je prends acte de ça, je prends acte de la réalité, et j'encourage ces gens qui transmettent la foi, et j'essaye que ce capital, cette expérience acquise, puisse servir à l'Église universelle. Il n'y a rien de tout ça.
C'est dit. Merci Jean-Pierre. Père Donzier, qui a un regard peut-être surnaturel.
Ouais.
Sur
ça. C'est pas surnaturel.
Je sais pas, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce qui a été dit, parce que je me retrouve un peu dans les interventions des uns et des autres. Peut-être pour prolonger de ce qu'a dit l'abbé Cellier, c'est sûr que quand même, dans... l'histoire sainte de notre relation à Dieu, on sait bien, on le chante dans le Magnificat tous les jours, Dieu confond les orgueilleux et les superbes, donc si on a des plans, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet, évidemment, je ne voudrais pas apparaître pour le pieux providentialiste de service
mais
ce matin.
C'est pour ça que vous êtes là.
Mais je... moi, ce qui m'intéresse, c'est plus que ce texte Demos 2, Demos 3, Demos 4 ou Demos 1, en fait, atteste, une fois de plus, atteste la situation de crise en fait, que traverse l'Église et de ce pontificat dont il serait synonyme d'ouverture, de synodalité, de dialogue, de paix, miel, joie, fleurs. Et en fait, semble-t-il, c'est plutôt une pagaille noire.
Oui, c'est le constat. Voilà. C'est
donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'avais posé une fois la question au professeur Roberto De Mattei, savoir selon lui, qu'est-ce qu'il faudrait que le pape fasse. Donc, je lui avais demandé de faire le Demos 5, voilà, en l'occurrence. Voilà.
Il trouve Demos 2 très faible.
Voilà, et il m'avait dit, et ça rejoint un peu sur la question du dogme, je ne sais plus par qui elle a été abordée, c'est que, selon lui, en fait, il faudrait que le futur pape redéfinissent les termes des choses essentielles, parce qu'on sent bien qu'il y a c'est l'empire de la confusion. Voilà, aujourd'hui, on l'a dit dans l'émission précédente, comment parler de lex orandi, donc de loi de la prière dans le cadre de la liturgie, si finalement il n'y a pas vraiment de loi ? Comment mettre en œuvre une politique, que ce soit une organisation de l'Église ou une organisation de la formation des prêtres, etc. Donc c'est des règles. Si ces règles ne sont pas appliquées, à quoi ça sert d'avoir un règlement s'il n'y a pas de sanctions derrière, etc. Or, on sent bien que non seulement il n'y a pas vraiment de règles, on sent bien que certaines fois les sanctions sont à géométrie très variable, et que surtout, derrière tout cela, on ne voit pas exactement quel est le cap, quelle est la visée, le bien des âmes, l'enjeu de la vie éternelle et de notre amitié avec Dieu. Donc tout cela, en fait, plus Demos, au lieu d'offrir des solutions, me semble surtout attester la réalité de la crise qui, hélas, ne me semble pas partagée encore aujourd'hui. C'est, pour reprendre la fameuse phrase de Peggy, il est certaines fois difficile de dire ce que l'on voit, il est certaines fois plus difficile encore de voir ce que l'on voit. Et moi, je suis très frappé pour le coup, pour les réunions que je peux faire avec le clergé et de ce que je peux lire, de voir que, en fait, on a l'impression que le bateau continue à avancer et qu'on ne se pose pas des vraies questions sur le fait qu'il prend l'eau de toutes parts.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Voilà,
c'est le Titanic qui chante, qui continue de chanter.
Exactement. Mais,
Monsieur Abébard, vous voulez...
Oui, à propos de ce que pense Demos 2, bon, à supposer qu'il soit très proche de Weigel, et dans Il Prossimo Pape, il remarque, c'est un
Weigel, donc
Weigel, oui, remarque que ceux qui marchent dans l'Église aujourd'hui, ce sont ce qu'il appelle les attestataires, ceux qui affirment très fortement
ce que dit Cuchet aussi,
ce que tout le monde dit, hein, d'une certaine manière. Et l'avenir pour lui, c'est ça. Ouais, il faudrait que le futur pape s'appuie sur ces choses-là.
Sur ces attestataires.
Mais
portrait robot, l'attestataire, c'est quoi?
L'attestataire, c'est, c'est celui qui affirme les choses de la foi, les choses de la morale dans l'idée de Weigel. C'était aussi la grande idée, on va dire même de l'élection de Benoît XVI. L'attestataire, c'est l'idée de Ruini, le cardinal Ruini, qui a été le grand fabricant du pape Benoît XVI. Et qui était, publié, monnayé par magistère à l'époque, quand se préparait le conclave 2005.
Sandro Magistère. Donc qui est un vaticaniste.
Voilà. Mais en effet, nous sommes tous d'accord, et c'est plus loin qu'il faudrait aller, c'est plus profond.
C'est-à-dire, parce que là, ce que j'ai entendu, effectivement, c'est une critique globale de ce texte, Demos 2, en disant, en gros, c'est pas mal, mais il faudrait aller plus loin, plus fort, ou s'attaquer aux vrais problèmes.
Si je puis
une anecdote. Monsieur Labébard, le père d'Anziek, et puis Jean-Pierre.
On se souvient parfois de ses rêves. Or, cette nuit...
Il y en a qui prophétisent.
Vous allez rire, mais c'est réel. Les rêves qu'on fait à la fin de la nuit, vous savez, quand on se réveille presque. J'ai rêvé que j'étais présenté à Pie XII. Qui m'a Non, c'est très amusant.
On imagine la scène.
C'est peut-être prémonitoire.
Les trois genuflexions du jeune Abébard, fringant.
Ou alors, c'est l'annonce de sa mort.
Je en train de nous faire. Une chose, c'est que je suis resté à genoux, bah, on commencera à parler comme le veut le protocole. Non, alors je sais pas ce que ça signifie.
Tout ça pour ça.
Non, mais ce que je pense, en effet, ma fixation sur P12 est aussi une fixation sur un avenir qui fermerait la parenthèse. Quoi. Sur quand je parle de P13, c'est ce que je veux dire. Un pape qui soit un pape, quoi. Voilà.
Moi, ce qui me gêne beaucoup dans les analyses actuelles, c'est justement c'est un peu cette vision naturaliste de l'Église, à savoir qu'est-ce qui marche. Alors là, ils mettent de l'encens, ils montent des beaux ornements, etc. Enfin, voilà. Tout ça, en fait, moi, je trouve que c'est gênant. En fait, je ne dis pas telle ou messe, ou je ne prêche pas tel catéchisme, parce que ça marche, en fait. Parce que celui que je suis, et on est en train de le vivre pendant le carême, il est mort quand même sur la croix. Donc on ne dit pas je m'interroge sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution.
C'est une obsession chez vous, hein.
Parce qu'on estime que c'est la posture la plus constructive dans le début d'un commencement d'une introspection pour revenir sur la loi Veil. Non, en fait, on dit les choses pour clamer la vérité. Sur les toits même, au risque peut-être même de perdre la vie, de perdre sa notoriété, sa notabilité, etc. Donc ça, c'est quand même ce que notre Seigneur a fait. Enfin, vraiment, j'en reviens, j'ai déjà dit en plus ici, mais ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose sur laquelle on doit insister. Donc, si c'est pas la question, c'est pas qu'est-ce qui marche, c'est qu'est-ce que Dieu nous indique, qu'est-ce que l'Église a toujours dit, toujours fait, et ce qu'on appelle la tradition. Donc, en fait, et dans la fidélité à l'évangile du Christ. Donc,
en plus, ça marche.
Et en plus, ça marche, évidemment. Mais non, pas ça marche. Enfin, ça marche pour le destin éternel. C'est ça.
C'est une manière de parler, voilà. Bien sûr.
Non, parce que des persécutés, voilà.
Ce qui importe, c'est la mission, en effet, la mission. Non,
je me fiche pas mal. Enfin, je ne cherche pas à me notabiliser. Je ne cherche pas à ne plus être persécuté, même si ça m'arrangerait bien d'une certaine façon. Mais supposons que je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus persécutés que moi.
Que nombreux soient les baptisés.
Exactement. C'est tout.
Alors, je crois qu'il y a. Alors, c'est pas du tout contradictoire. Je crois qu'il y a un point aussi qui n'est pas évoqué, mais qui sous-tend, je pense, un certain nombre de choses. Vous avez évoqué une remise en ordre, rappeler la foi. Bon, je crois le drame dans lequel nous nous trouvons. Vous connaissez l'expression du cardinal de Retz disant qu'on ne sort jamais de l'ambiguïté qu'à son détriment. Bon, cette sortie de l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui prendra la responsabilité? On pense par exemple à l'encyclique de Saint Pie X, Pascendi, sur le modernisme, etc. Il dit, voilà, les hérétiques, les modernistes, ils sont au sein même de l'Église, donc il faut les chasser, déchaire, des postes de responsabilité dans les séminaires, etc. Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre de manière à retrouver la pureté de la foi. Qui aujourd'hui, quel souverain pontife, quel cardinal dans son programme prendra la responsabilité de dire, voilà, je vais rappeler l'intégrité de la foi, il en coûtera ce qu'il en coûtera, et nous prendrons acte que 90% de l'Église d'Allemagne, que 95% de l'Église de Belgique ne partagent plus la foi catholique, et donc ne font plus partie de l'Église, et si elles le souhaitent, peuvent nous séparer, peuvent nous quitter pour fonder une autre Église. Car aujourd'hui, ce qu'ils croient, ça n'est plus ce que croit l'Église. C'est une...
lourde responsabilité, mais en effet, c'est un vrai sujet.
C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Et une lourde responsabilité, mon Dieu.
Je le redis, le vrai sujet, c'est le schisme, en effet.
Voilà, mais en même temps... dans l'histoire des réformes, ça a toujours été d'abord le chef, donc le pape et la curie, ça, ont encouragé le bien de façon à ce que petit à petit il y ait une masse critique suffisamment puissante pour qu'à partir de ce moment-là on puisse agir. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, Grégoire VII, enfin les prédécesseurs de Grégoire VII ont encouragé tous ceux qui n'étaient pas concubins, les prêtres qui ne se faisaient pas payer pour les sacrements, etc. Ils ont encouragé, soutenus par des grands ordres Cluny, etc., par des grands ordres monastiques qui réussissaient leur réforme. Et quand il y a la masse critique, à ce moment-là, on peut passer à la deuxième étape, effectivement, de trancher dans le vif. Par exemple, c'est ce qu'a fait le Concile de Trente, qui a tranché dans le vif par rapport aux protestants, mais ça avait été préparé par toute une pléiade de saints qui sont arrivés et qui ont souffert et qui ont dans leur coin, qui ont reconstruit quelque chose. Donc il faut que l'autorité encourage d'abord les attestataires, tous ceux qui vont dans le bon sens,
commence par pas les empêcher d'être attestataires.
On parle du prochain pape.
Les encourager, les fortifier, etc. Et à partir de la masse critique, dans lequel effectivement le pape va pouvoir recruter ses cardinaux, retrouver les évêques, parce que nommer de bons évêques c'est une bonne chose. Il faut avoir les personnes. Il faut avoir les personnes aptes à faire ça. C'est-à-dire à la fois qu'ils soient vraiment catholiques et qui aient un peu d'habileté, parce qu'il va falloir jouer le Saint-Ambroise a été nommé à Milan à l'archidiocèse. L'archidiocèse était peuplé d'évêques à rien modéré, mais à rien quand même. Il a mis des années à avancer ses pions. Chaque fois qu'il y avait un évêque qui mourait, tac, il faisait nommer un évêque catholique. Il a fallu du temps et il lui a fallu des personnes aptes à devenir ces évêques qui pourraient effectivement apaiser et avancer dans un contexte extrêmement difficile, parce qu'il y avait des gens qui soutenaient l'arianisme.
D'où l'importance, je l'évoquais, de la formation des prêtres. L'avenir de l'Église, c'est la formation des prêtres qui donneront les évêques, comme vous l'avez évoqué.
Favoriser le bien et avant de sanctionner le mal.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors pour reparler de Pilouze, c'est pas maintenant que je le connais.
C'est
n'est-ce pas ce qu'il a fait. Il y a Humani Generis, qui est une condamnation, en tout cas une liste d'erreurs, avec des condamnations faibles, j'en conviens, il faut en convenir.
Parce qu'ils ont gagné après. Tous ceux qui ont été condamnés, on peut le dire
de tout ce qui a précédé. Hein.
Malgré tout,
ils ont gagné. Oui. Mais en fait, c'est vrai que là, ça a commencé à chauffer sérieusement. Mais il y avait aussi, on poussait le bien, on explicitait des tas de choses sur la Sainte Écriture, sur la liturgie, Mediator Dei, sur la Sainte Écriture, Die Nouvelle Flandre, etc. Donc, en effet, il y a les deux rênes qu'il faut tenir. Mais nous sommes, dans cette situation. Hélas, on n'est pas dans la situation du Concile de Trente, on est plus proche de cette situation des années 50, mais au-delà quand même, hein, on est dans une situation de post-catholicisme. Comment faudra-t-il faire ? J'en sais trop rien. Peut-on faire
Non, parce que par ailleurs, effectivement, vous dites post-catholicisme, il y a l'effondrement de la civilisation chrétienne.
Mais tout est lié.
Tout est lié, bien sûr, mais ça change aussi la donne.
Complètement.
Le pouvoir temporel n'est plus là non plus pour porter un certain
nombre de choses. Qu'au moins, disait le père Nandiek, on nous laisse faire. Si vous voulez, bon, ce que je vais dire, c'est
côté libéral, hein.
Presque hérétique. Oui, mais là, je vais aller dans son sens. Hein, être plus
c'est votre côté libéral.
C'est mon côté libéral. Oui, on peut parler, comme Demos essaie de le faire, plus ou moins bien, plutôt mal que bien, du pape idéal, mais on peut aussi parler du pape possible. Et il est possible que ce qui sortira du conclave qui va venir, ce soit un pape possible, qui au moins laisse la paix laisse faire ceux qui sont catholiques. C'est loin d'être l'idéal.
C'est-à-dire qui remettent pas le dogme, la foi, etc. en avant, mais au moins qui n'embêtent pas.
En tout cas, qui préparent.
Qui n'embêtent pas les attestataires.
Dans l'état actuel, bon, là, je ne suis pas prophète, hein, mais c'est ce qu'on pourrait souhaiter, un pape possible.
Vous êtes rêveur, mais pas prophète.
Sur ce sujet, puisqu'on a parlé de la société post-catholique, etc., et que tout est lié, vous disiez, monsieur l'abbé, il me semble que justement cette question de l'attestation est, à mon sens, le point névralgique de la situation actuelle. Je m'explique, je suis intimement convaincu que le bon Dieu ne récompense pas les personnes qui ne se réclament pas de lui. En fait, c'est en plus dans l'évangile, etc. Donc, cette faiblesse dans l'attestation, peut-être avec des circonstances atténuantes, tout ce qu'on veut, mais ne peut pas être récompensée par là-haut. En fait. Donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle est, à mon avis, directement conséquente de cette faiblesse de la proclamation de ce qu'est le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Et à partir du moment où il y a eu un divorce avec cette manière de poser son âme, eh bien les conséquences immédiates, c'est le cancer que nous observons aujourd'hui. Et la reprise de l'esprit attestataire, non pas parce que ça marche, non pas parce que ça fait bien, non pas parce que c'est le courant de la mode, voilà. Non, parce que c'est le Christ, en fait. C'est aller proclamer mon évangile à toutes les nations, voilà. Pour moi, c'est vraiment c'est le rapport cause-conséquence sur lequel il faut me poser le doigt.
Je pense, en complément de ce que dit le père Danziègue aussi, c'est dans les communautés chrétiennes, véhiculer une culture qui soit une culture de résistance à la société moderne, en fonction de ce qui vient d'être dit. Voilà, nous sommes différents par fidélité au Christ, et cette différence, nous l'acceptons. Nous en vivons, et je pense qu'aujourd'hui, on parlait la semaine dernière du débat sur l'avortement, de l'absence d'un certain nombre de réactions, etc. Je crois aussi que dans le fond de la tête d'un certain nombre de personnes dont on souhaiterait qu'elles réagissent plus vigoureusement, c'est ça, c'est une crainte de se positionner vraiment comme différent, comme étranger à ce monde par rapport aux valeurs qu'il véhicule. Voilà, il y a tout un aspect chez beaucoup de chrétiens, peut-être chez certains évêques, voilà, un aspect de mondanité. Voilà, je veux pas aller contre les valeurs du monde, le courant dominant, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier.
Se fiancer avec la vérité, c'est accepter de divorcer avec nombre d'hommes, disait le père de Chivray.
Le père de Chivray, exactement.
Vous avez parlé les uns les autres d'attestataires. Ces attestataires, dans votre esprit, ça se limite à... Enfin, ça concerne qui aujourd'hui, en France par exemple? Qui sont les attestataires? Parce qu'il n'y a pas d'étiquette.
Moi, je pense que c'est l'homme de bonne volonté qui réalise que c'est une vaste fumisterie le monde dans lequel il vit, et donc il a un appétit de transcendance, et il sent que la lumière, elle brille quelque part, et elle brille où? Elle brille quand...
S'il est attestataire, c'est qu'il le dit.
Comment?
S'il est attestataire, c'est qu'il le dit.
Oui, c'est qu'il fait une démarche personnelle où il s'engage dans une réforme de lui-même en vue de suivre le Christ. Voilà. Oui. Et ça, moi, je ne...
Ça dépasse l'homme de bonne volonté, là. On est à un stade supérieur.
Mais c'est pour le voir, c'est-à-dire que moi, les gens qui fréquentent mon ministère n'ont pas cliqué à messe-de-saint-puissin.com, si vous voulez, nécessairement. Ils sentent, si vous voulez, que cet écosystème...
C'est le sens de ma question.
Ils sentent qu'ils sont en recherche d'un écosystème qui offre une forme de cohérence à leurs aspirations confuses, mais qui vont au fur et à mesure s'affiner. Et au fur et à mesure... en fait, ces écosystèmes, ils sont quand même plutôt liés à l'écosystème traditionnel, mais pas que.
Mais pas uniquement.
Mais pas que. Mais simplement,
je sais pas si vous êtes d'accord.
Non, je suis tout à fait d'accord. Mais comme vous remarquez, nous résonnons tous dans des communautés. Il y a votre question aussi.
Oui, c'est la question.
Quelles sont les communautés qui... Ce qui est, en effet, on peut répondre, hein, sans doute. Enfin, alors, donc, on va dire, non plus les communautés traditionnelles, communautés, on va dire, charismatiques, disons les choses comme elles sont, de droite, jusqu'à un certain point, les communautés... Bon,
je ne sais pas ce que sont les communautés charismatiques de droite, moi.
Une partie de l'Emmanuel. D'accord. Une partie, parce qu'il y a des phases de diversité de l'Emmanuel. Oui. On va dire la communauté Saint-Martin, etc., pour la France. C'est pas intéressant. Le véritable
moi je suis complètement d'accord avec vous.
Le véritable attestataire, c'est l'évêque.
Ça aide les gens à vivre, quoi, tout ça.
Oui, mais il faut survivre, tout à fait.
Non, mais pardon, mais, en tant que laïc.
J'entends bien, mais il faut quand même se poser dans une vision d'église. L'église, c'est le pape et les évêques. Donc, elles peuvent continuer. C'est
très tridentin, ça.
Elles nous font survivre. Et elles doivent survivre, il le faut en effet, il faut des fraternités impidistes, des fraternités ceci, cela, j'en suis bien d'accord. Mais il faut surtout, qu'on arrive à avoir d'abord quelques évêques qui soient des chefs, et qui attestent justement, et qui soient la colonne vertébrale des communautés en question, et à la fin du pape, bien sûr.
Monsieur l'abbé Célion, on vous entend peu sur ce sujet.
Non, mais je pense pour résumer tout ce qui a été dit par mes aimables confrères.
Très maçonnique.
Eh bien, il faut l'attestataire, c'est le catholique déclaré, tranquille, ferme, solide, qui veut vivre sa foi et l'exprimer, la manifester et la transmettre. Et c'est cela. Alors effectivement, ça traverse, même si, encore une fois, je ne fais pas la parité en toute chose, mais ça traverse. On rencontre des gens qui s'adressent à nous à tel ou tel moment parce qu'ils ne savent pas qu'on est français, Saint-Pédis ou peu importe, et dont on voit que c'est des gens qui sont dans les paroisses et qui vivent une vraie vie chrétienne, qui prient régulièrement, qui ont des normes spirituelles et morales morale solide et qui veulent vraiment vivre et qui sont effectivement des rebelles au monde moderne. C'est clair, parce que effectivement, il y a un moment où on se dit, ben voilà, je suis catholique et donc à ce moment-là, eh bien, je ne peux pas être moderne parce que c'est incompatible et c'est incompatible.
Qu'est-ce que vous appelez être rebelle au monde moderne? Qu'est-ce qui, ça se porte sur quoi? Ben,
le monde moderne est un monde libéral, c'est un monde libéré de Dieu, c'est un monde libéré de la nature humaine et le catholique est un homme soumis à Dieu et un homme qui assume sa nature humaine et les lois de sa nature humaine. C'est tout. Dans quelques mois, on va parler d'un excellent livre sur l'école de l'antilibéralisme catholique.
Je suis bien d'accord.
Que je vais publier et j'explique ça en long, en large et en travers. Effectivement, le libéralisme, c'est la libération vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la nature des choses. Et le catholique, c'est celui qui se soumet à Dieu et qui accepte la nature des choses.
Peut-être pour prolonger, il y a la... qu'est-ce que c'est que l'opposition au monde moderne? Le monde moderne, c'est le refus du décalogue. C'est la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu, transmise par Moïse, Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, elle rappelle finalement les conditions, elle balise l'orientation de vie d'un homme pour qu'il puisse atteindre le bonheur, une certaine forme de paix, et en vue de son salut éternel. En faisant ça, il sera finalement équilibré, heureux, en tout cas, pour reprendre l'expression de Gustave Thibon, il empêchera l'enfer de redéborder davantage. Or, ce qu'on assiste aujourd'hui, comme il y a un refus du décalogue, un piétinement du décalogue, inévitablement, puisque nous avons été créés par Dieu, eh bien, l'homme se retrouve orphelin de sa propre condition. Et donc, il est malheureux. Et ce que l'on observe, c'est qu'un certain nombre de gens, comme ce piétinement du décalogue est de plus en plus insistant, un certain nombre d'hommes finissent par réaliser qu'ils sont de plus en plus tristes, plus en plus malheureux. Enfin, on leur a promis, avec la libération sexuelle, avec que sais-je, etc., monts et merveilles. On assiste à une prolifération de célibataires, à une multiplication de mères qui sont seules avec leurs enfants, etc., etc., au mouvement MeToo, etc. On pourrait tirer sur le fil. Ce que l'on constate, c'est que fort de cela, il y a des gens qui commencent à se dire, mais attendez, là, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. En fait, on nous a peut-être menti, on nous a peut-être offert une farce. Donc moi, ce que je veux, c'est de l'équilibre. Ce que je veux, c'est élever une famille tranquillement. Ce que je veux, c'est que mon mari m'aime. Ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux, etc. Eh bien, où est-ce que je vais trouver ça? Et au fur et à mesure, parce qu'au fond d'eux, il y a cet appétit du décalogue qui est comme sous les braises, comme sous la braise sous la cendre, qui se réveille et qui rejaillit et qui permet ensuite de redonner le feu à leur âme. Et c'est ça, pour moi, ce à quoi on est en train d'assister, à mon sens.
Je vous ai vu, monsieur l'abbé.
J'étais totalement d'accord. Mais je pensais à la prochaine publication que vous allez faire aussi, en même temps que l'abbé Cellier, à savoir de Bernanos.
Avant l'abbé Cellier. Merci de jeter une pierre dans mon jardin. L'encyclique aux Français, oui, testament politique de Bernanos.
Un personnage très anti-moderne, c'est Bernanos, et qui vise, qui pointe l'essence de la modernité dans la politique. Pour lui, pour Bernanos, c'est la démocratie moderne, la modernité. C'est d'elle qu'on souffre. Et donc, le pire des péchés, pour lui, c'est le ralliement à cette démocratie moderne. Alors, je voulais simplement faire une petite publicité.
Merci, d'accord.
Pour rebondir et insister sur un point qu'a évoqué le père d'Anziec, là, je crois que pour un catholique, pour un laïc, ce catholicisme attestataire dont on est en train de parler, ça peut s'incarner de manière, alors peut-être parfois concrètement un peu difficile, mais il y a un champ d'application de ça, bien évidemment, c'est la famille. C'est la famille, les 10 commandements vécus dans le cadre de la famille, ben c'est un problème, c'est un programme pour chaque laïc, et c'est par nature, je dirais, une résistance à la modernité. Et là, le champ est vaste, et puis aussi, monsieur l'abbé Cellier l'évoquait, il ne se réduit pas à une chapelle ou à une autre. C'est-à-dire les gens qui, dans leur famille, cherchent à vivre du décalogue, eh bien, je pense que c'est plus vaste qu'une seule chapelle. Et ça, c'est très encourageant.
Alors, on est quand même passé du catholique attestataire et d'une critique de démo sur le fait qu'il ne parle pas de la foi au minimum commun, si je puis dire, qui est le respect de la loi naturelle.
Et de la foi.
J'ai pas trop entendu quand même.
Ah ben non, on a parlé de catholiques qui vivent de leur foi et qui effectivement vont réaliser la soumission à Dieu, la vie sous le regard de Dieu, qui est la foi catholique, hein, la révélation divine, et le respect de la nature des choses, donc de la loi naturelle, qui est l'expression également de la volonté divine, hein, sous l'angle de la volonté divine, donc la loi. Et puisque nous parlons de Bernanos, citons quand même cette parole, hein, on ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas qu'elle est d'abord une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Je dis que moi, je canonise Bernanos rien que pour cette phrase. Hein. Donc, c'est une phrase magnifique et qui dit, effectivement, on ne peut pas être d'accord avec la civilisation moderne parce qu'elle est une conspiration contre la vie spirituelle et que l'homme est un être spirituel qui est sous le regard de Dieu et qui vit pour Dieu.
Surtout, il me semble que vous voyez, il y a une... Les gens découvrent, redécouvrent aujourd'hui plutôt... que la vérité est par nature intransigeante. C'est ce qu'avait dit l'abbé Raffray dans un sermon à Chartres, lors du pèlerinage de Chartres. La vérité est par nature intransigeante. Et donc, on ne peut pas transiger. On sent bien que parce que c'est une réalité naturelle. D'abord, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent le bonheur, en fait. Ils veulent la paix, ils veulent être tranquilles, ils veulent... C'est tout simple. Et donc, ils viennent nous voir pour ça, nous, prêtres ou des amis, etc. Et si on veut les conduire au bonheur, on va leur dire, ça, c'est ce chemin-là qui va commencer à faire. Donc, c'est la notion de fidélité, la notion de persévérance, la notion de sacrifice. Et toute cette articulation trouve son accomplissement merveilleux dans l'enseignement du Christ, transmis ensuite par l'Église, donc par la foi. Mais... À la base, il y a, sauf les gens qui ont peut-être vu Pie XII en songe, en se réveillant sans savoir qui c'était, ils ne viennent pas vous voir, tel Charles Foucault qui aurait dit à l'abbé Huvelin dans l'église Saint-Augustin, dans la sacristie, donnez-moi la foi. Ils ne demandent pas ça. D'abord, ils demandent en fait à être heureux, à comprendre, et ils sentent, encore une fois, moi j'insiste beaucoup, on sent que les incohérences du monde moderne commencent à craquer de toutes parts. Alors, je ne sais pas si on verra son terme. Petite confidence, quand j'étais séminariste, un prédicateur en retraite nous avait dit, ma première retraite au tout début de ma formation, au début de mon séminaire, il nous avait dit, vous êtes rentré ici, très bien. Si vous êtes rentré ici pour sauver l'Église, vous vous trompez parce que c'est l'Église qui nous sauve. Mais par contre, si vous n'avez pas la certitude que l'Église traverse une grave crise aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et il avait dit cette chose. La crise est peut-être derrière nous, mais ses effets ne font que commencer, si vous voulez, comme un tremblement de terre, etc. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'était... diablement. Et je crois, qu'en tout cas, on traverse... on a les effets de cette crise.
On est encore sous la crise. Mais c'est pour ça qu'on parlait du portrait robot
du pape.
Du prochain pape. Et que votre conclusion, si j'ai bien compris, c'est que ce prochain pape s'appuie ou laisse vivre au moins les catholiques attestataires dans toutes les formes, voire nomme des évêques dans ce sens. Merci beaucoup. De ces propos, de ces échanges. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club des Emmons Noirs avec de nouveaux invités et évidemment un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homenouveau.fr.